Le journal est présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. L'impuissance des Nations Unies à parler d'une seule voix face au risque d'un nouveau conflit durable à Gaza. Hier, première journée de mobilisation des Gazaouis pour le droit au retour de leurs réfugiés. Et l'armée israélienne qui a tué 16 Palestiniens en a blessé 1400 au moins, tous participaient à des rassemblements pacifiques à la frontière de la bande de Gaza. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est donc réuni en urgence cette nuit. Le diplomate Majed Bamia fait partie de la délégation de l'État palestinien auprès des Nations Unies. Il déplore une nouvelle fois l'inaction de la communauté internationale à s'affirmer face à l'État hébreu après les affrontements meurtriers d'hier.
Je ne sais pas si on peut les appeler des affrontements. Il s'agit de manifestations pacifiques. Les manifestants étaient côté palestinien et Israël a décidé d'ouvrir le feu sur des civils qui étaient en train de manifester en droit de l'homme et en droit international humanitaire. Cela constitue des violations extrêmement graves et des crimes. Et nous avons plus d'une quinzaine de morts, plus de 1400 blessés, dont 750 par balle.
Le Conseil de sécurité justement des Nations Unies s'est donc réuni en urgence cette nuit pour évoquer la situation. Qu'est-ce qui a pu se dire, puisque vous êtes évidemment sur place, et est-ce que vous soutenez cette demande d'enquête indépendante qui a été formulée par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres?
Mais bien sûr qu'on soutient la demande d'enquête, mais ça c'est pas la première fois qu'ils demandent des enquêtes sur la partie israélienne. Elles n'ont jamais eu lieu. Israël n'a jamais été puni pour ce genre de crime. On a 70 ans. On peut observer sur combien de Palestiniens ont été tués, des dizaines de milliers de Palestiniens à travers les années, et on n'a pas connaissance d'Israéliens qui aient été punis pour ces crimes-là. On a la colonisation qui est un crime d'État, et là aussi les Israéliens se moquent du droit international et se moquent du système international. Donc l'appel est le bon, mais après il faut des actions, et cela le Conseil de sécurité est empêché de le faire en raison de l'opposition systématique américaine à toute action sérieuse contre l'occupation israélienne et ses crimes.
Le diplomate palestinien à l'ONU, Majed Bamia, avec Matteo Maestrachi, c'était tout à l'heure sur France Info, et ce matin également la télévision du Hezbollah, Al-Manar, indique pour sa part qu'un drone israélien s'est écrasé hier au sud Liban. En France, en attendant la grève des cheminots qui s'annonce très suivie à partir de lundi soir, ce sont les salariés du groupe Carrefour qui devraient massivement suivre l'appel à la grève lancé par leurs trois syndicats ce samedi. Ils dénoncent l'annonce de 2400 nouvelles suppressions de postes d'ici 2022 et la baisse drastique de leur prime de participation l'an dernier, 57 euros en moyenne par salarié contre 610 l'année précédente, et ce alors que Carrefour affiche des bénéfices records et a augmenté les dividendes de ses actionnaires. L'idée avait secoué la campagne présidentielle l'an dernier avant le fiasco, il faut bien le dire, de celui qui la portait, Benoît Hamon. Le revenu de base revient dans le débat en France. 13 départements espèrent même pouvoir l'expérimenter dès l'an prochain. Ce concept qui a toutefois été un peu revu, il ne concernerait plus que les populations les plus fragiles, sur la base d'un constat finalement assez simple, Hélène Fili.
Les chiffres en témoignent, la protection sociale a ses limites, notamment le RSA pour Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.
C'est une allocation que plus de 30% des gens qui pourraient en bénéficier ne sollicitent même pas, parce que c'est une allocation difficile à obtenir, parce que ce n'est pas automatique, parce que vous n'avez pas envie d'être au RSA tout simplement, vous n'avez pas envie de passer la porte d'un service social, de dire à l'aide.
Jean-Luc Glaise, le président de la Gironde, voit très bien à qui ce revenu pourrait s'adresser.
Les agriculteurs qui n'arrivent pas à tirer un revenu de leur exploitation, des personnes en reconversion professionnelle ou en formation. C'est valable aussi pour les aidants de personnes handicapées ou de personnes âgées. Donc l'idée, c'est d'avoir un revenu de base qui réponde à l'ensemble de ces situations sans l'opposer à la valeur travail.
Pour faire le plein, pour payer une garde d'enfant si l'on cherche un emploi, pour stopper l'exode des jeunes aussi. Et dans un département rural comme celui d'Alain Lassus, la Nièvre, ça compte beaucoup.
Ça va leur permettre d'essayer de développer de l'emploi, d'avoir le temps d'aller au bout de leurs idées. Aujourd'hui, dans la Nièvre, un peu le réflexe, c'est de dire on passe nos examens, puis après on s'en va. Donc dans un territoire où les jeunes partent, il y a peu d'espoir de voir le territoire se développer.
La consultation citoyenne aidera à préciser le cadre de l'expérimentation, le montant de l'aide, pour qui, pendant combien de temps. Plusieurs scénarios pourraient être testés pour comparer.
Cette consultation citoyenne en ligne sur le revenu de base, nouvelle formule, c'est sur mon avis sur le revenu de base, toutattaché.fr. C'est le nouvel horizon de la reconquête économique. Selon Emmanuel Macron, l'intelligence artificielle à la française va bénéficier d'1,5 milliard de fonds publics pour se développer, retenir les meilleurs chercheurs et ne pas laisser les Chinois et les Américains truster ce marché colossal pour l'avenir de nos économies. Ces annonces ont été faites jeudi. Pas question de rater le train, donc, Lise Verbeek, même si l'idée même d'intelligence artificielle n'est plus proprement, à proprement parler, un concept bien nouveau.
C'est un chercheur américain, John McCarthy, qui emploie le terme pour la première fois lors d'un séminaire aux États-Unis en 1956. L'idée de ce séminaire est d'utiliser les ordinateurs pour en faire des machines pensantes, reproduire les neurones humains. Les chercheurs travaillent alors sur la traduction automatique. En pleine guerre froide, traduire du russe vers l'anglais ou l'inverse est un énorme enjeu. Mais l'histoire de l'intelligence artificielle n'est pas linéaire, les recherches fluctuent au gré des crédits. Dans les années 2000, la discipline connaît un tournant avec les GAFAM, Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Les algorithmes sont utilisés pour comprendre ce que l'utilisateur veut, aime et peut acheter. La voix, la reconnaissance des visages deviennent désormais des outils utilisés couramment. Les technologies s'affinent et vont toujours plus loin. Mais jusqu'où peut-on aller ? Pierre Mounier-Kuhn, chercheur au CNRS.
L'intelligence artificielle, c'est un horizon qui recule sans arrêt au fur et à mesure qu'on progresse depuis 60 ans. La plupart des gens essayent simplement de développer des choses qui marchent plus ou moins bien, qui ont un débouché commercial. Et vous avez des gens qui spéculent et qui sont un petit peu les poissons pilotes ou les propagandistes de l'IA, y compris en assignant des buts impossibles à atteindre parce que ça tire toute une dynamique.
Alors qui est quoi, par exemple ?
Un exemple, c'est la conscience. Vous avez toujours des discussions... sur l'ordinateur peut-il penser, peut-il être conscient qu'il pense, a-t-il une conscience ?
Il est possible de simuler le raisonnement humain, mais pas de doter un robot d'une conscience. Les fantasmes suscités par l'intelligence artificielle sont nombreux, les inquiétudes aussi. Ce qui fait dire au patron de Tesla, Elon Musk ou encore Bill Gates, qui se servent de l'intelligence artificielle, qu'il faut l'utiliser avec prudence face à sa potentielle dangerosité pour l'homme.
Aux origines de l'intelligence artificielle, c'est un dossier passionnant à retrouver en une de notre site franceculture.fr. Des éclaircies et des averses, c'est la météo de ce samedi. Soleil timide, mais bien là ce matin sur les côtes de la Manche et sur la moitié est du pays. Cet après-midi, la perturbation qui arrive par le sud-ouest va étendre ses pluies à tout l'Hexagone, à l'exception de la Provence, avec des températures qui ne dépasseront pas 8 à 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 17 dans le sud-est. Les éditions de cette matinée étaient réalisées par Julien Loquet. Prochain rendez-vous avec l'info sur France Culture, midi 30 avec Mathieu Laurent.